Territoires d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoires d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoires d'Info, votre bulletin francophone sur l'actualité territoriale. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. La loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest ne serait pas adaptée au Nord et ne protégerait pas les langues autochtones, c'est ce qu'a affirmé la commissaire aux langues, Shannon Goldberg. Le nombre de cas de COVID-19 enregistrés sur le territoire depuis le début de la pandémie s'élève maintenant à 10. Malgré tout, on ne prévoit pas de resserrement des mesures. En 2018, le gouvernement fédéral a alloué un montant de 60 millions de dollars au territoire du Nord-Ouest pour le logement. 2 ans plus tard, pas un sou n'a été dépensé. La ministre responsable de la Société d'habitation des TNO, Polly China, s'est expliquée cette semaine en chambre. Éjectée du Conseil des ministres du gouvernement du Nunavut pour avoir publié des propos jugés racistes et misogynes sur Facebook, le député d'Ivy League, Patrick Netzer, soutient qu'il a été faussement accusé. La municipalité de Yellowknife a émis de sérieuses réticences quant à l'utilisation d'un immeuble de la 44e rue qui est situé en face de l'école St. Patrick's pour y accueillir temporairement les personnes itinérantes de la capitale. Les personnes immigrantes de Yellowknife n'auront bientôt plus besoin de voyager dans la province voisine pour passer des tests en français. J'en parle avec mon collègue Denis Laure. La Banque royale du Canada et la Banque de Montréal ont annoncé qu'elles ne fourniraient pas de financement direct pour les projets impliquant de l'exploration pétrolière dans le refuge arctique. J'en parle avec ma collègue de Zone Arctique, Nelly Guédissi. Et finalement, ma collègue Cécile-Antoine Maisonnade nous parle de la programmation de la Semaine nationale de l'immigration francophone 2020. La loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest ne serait pas adaptée aux réalités du Nord, selon la commissaire aux langues Shannon Goldberg. Elle a émis cette opinion le 26 octobre devant un comité de l'Assemblée législative. Comme l'a souligné Mme Goldberg, le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, que le gouvernement des TNO s'est engagé à mettre en œuvre, souligne que la réconciliation avec les premiers peuples doit inclure la préservation de la culture et des langues. Or, selon la commissaire, la loi actuelle ne contribue pas à préserver les langues autochtones, dont certaines montrent des signes d'essoufflement inquiétants.
We cannot justify legislation that has the effect of treating indigenous official languages as second rate.
On ne peut garder une législation qui place ces langues au second plan, a-t-elle affirmé. Les obligations du gouvernement territorial envers les langues autochtones détaillées dans la présente loi sur les langues sont, en effet, différentes et moins étendues que les dispositions sur l'anglais et le français. La piètre qualité des services d'interprétation dans les langues autochtones couvertes par la loi représente, aux yeux de la commissaire, l'un des éléments qui illustre le mieux les lacunes de la loi.
Experience makes it clear that active offer isn't working. Employees need to feel the importance of that, understand the importance of that active offer, and they have to be feel comfortable in actually providing active offer. They must also know to actually assist the client in obtaining language services once those language services are requested.
Selon mon expérience, explique Mme Goldberg, il est clair que l'offre active de traduction ne fonctionne pas. Les employés doivent comprendre l'importance d'une offre active et être à l'aise de fournir ces services. Ils doivent pouvoir assister le client dans la prestation de services dans la langue choisie lorsque ces services sont réclamés. La commissaire recommande aussi de développer une offre de services adaptée à chaque communauté linguistique, et ce, au terme de consultations rigoureuses avec les collectivités, particulièrement avec les aînés.
What I can tell you is that, in my experience, the expectation of the public is reasonable. That is, they want to be able to obtain essential services in the various official languages. Healthcare, social services, housing, identification, motor vehicle, and dealing with elected officials. Again, it is my opinion that it is imperative to connect with communities and elders to establish these priorities.
En matière de protection des droits, c'est notre travail, au commissariat des langues officielles, de consulter les parties prenantes. Il faut aller dans les collectivités et leur demander quelles sont leurs priorités pour être en mesure de cibler nos efforts. Deux députés présents lors de cette rencontre ont exprimé les préoccupations recueillies auprès de leurs électeurs quant à la place prépondérante des droits francophones à travers le territoire. La députée d'Inuvik-Nord, Lessa Semler, déplore par exemple qu'on impose des procédures complexes d'utilisation du français à des employés qui pourraient, selon elle, substituer le français à leur langue officielle.
We're trying to preserve and we're trying to make our language important, but even our frontline workers having to answer the phone to say hello, bonjour, not that there's any disrespect against the French language, but if we're giving an active offer, isn't the active offer, couldn't it be if I'm Inuvik Alouette and I want to say, you know, in my language, or if I'm Gwich'in and I want to answer the phone, Dringwinzi.
Des employés d'Inuvik doivent systématiquement répondre hello, bonjour au téléphone, a-t-elle souligné. Certains ont peur de recevoir une plainte s'ils ne le font pas. On leur impose certaines procédures complexes en français alors que leur propre langue est en péril. Indique craindre que le français ne prenne la place des langues officielles parlées dans les différentes collectivités.
My people are wondering how come the French have more rights in language than we do. Everything's being translated to French. They're answering phones, government, doing everything in French. I also note too, and I was looking at the Stanton Hospital, even the large sign outside is in French. And you're in the traditional territory of the Quechua Dene people, the Yellowknife's Dene First Nations. It's not even translated in that language.
Mes électeurs se demandent pourquoi les francophones ont plus de droits qu'eux-mêmes, a-t-il déploré. Tout est traduit en français, même l'écriteau extérieur de l'hôpital Stanton, à Yellowknife, est traduit en français. Nous sommes en territoire Akaitcho, sur les terres des Premières Nations d'aînés Yellowknife. Ce n'est même pas traduit dans leur langue. Madame Goldberg a d'abord convenu que le secrétariat de langue française a mis en place un matériel de qualité phénoménal pour l'offre de services. Selon elle, il faut adopter cette même approche de qualité pour toutes les langues officielles.
I understand the frustration, but I think it goes back to revisiting the whole issue of active offer. How are we going to logically come up with a system that works? What are the barriers? And I think that does mean doing an audit with frontline staff about and getting honest answers. Where do they feel uncomfortable? Where do they feel tripped up? Is it nerve? Is it not knowing the resources? What is it? You have to have a fulsome, honest discussion to get by that.
La commissaire aux langues officielles des TNO, Shannon Goldberg, explique qu'à l'heure actuelle, le personnel des institutions gouvernementales ne sait même pas que des services d'interprétation sont offerts dans leur département. Ils ne savent pas comment traiter les demandes. Il importe, selon elle, de cibler les services qui sont les plus importants pour chaque communauté linguistique et de s'assurer qu'ils soient implantés. Avec les nouvelles technologies, il n'y a plus de barrières et plus d'excuses, a-t-elle conclu.
I don't want to see the French language rights broken down or eroded. I don't think that's helpful to anybody. I applaud the francophone community for the steps they've taken. What I want to see is the indigenous languages built up.
Je ne veux pas que les droits des francophones soient érodés, a ajouté la commissaire aux langues. Ce que je souhaite, c'est de voir les langues officielles autochtones se construire et atteindre ce niveau de droits et de ressources. La loi sur les langues officielles des TNO, qui n'a pas été modifiée depuis 2003, fait l'objet d'une révision parlementaire tous les 5 ans. Dans le cadre de ces travaux, le comité, présidé par la députée de Tebacha, Frida Marcellos, recevra le ministre responsable des langues, R.J. Simpson, ce lundi 2 novembre. Il s'agissait vraisemblablement de la dernière intervention publique de Shannon Goldberg en tant que commissaire aux langues. Son mandat se termine le 31 octobre 2020. Après la confirmation d'un second cas positif à Inuvik dans la soirée du 27 octobre, le nombre total de cas enregistrés au TNO depuis le début de la pandémie grimpe à 10. Malgré cette recrudescence des cas dépistés, pas question de se reconfiner au territoire du Nord-Ouest. Nous devons aller de l'avant, même si d'autres provinces resserrent leurs règles, a indiqué l'administratrice en chef de la santé publique, la docteure Camille Candola. Cette dernière a également insisté sur le fait que le nombre de cas allait inévitablement augmenter. « Nous ne sommes pas immunisés », a-t-elle rappelé. Alors qu'un premier habitant d'Inuvik avait été déclaré positif au coronavirus la semaine dernière, un second cas présumé a été dépisté le 27 octobre. Ces deux cas sont liés, mais il n'y aurait aucun risque pour le public, a précisé l'administratrice en chef de la santé publique. Et à la veille de l'Halloween, les règles restent inchangées pour la quête des friandises, et ce, malgré la multiplication par deux du nombre de cas ces deux dernières semaines au territoire du Nord-Ouest. Les règles sont relativement simples. Les familles sont invitées à passer l'Halloween en groupe restreint d'une même bulle. On recommande également le port des gants cette année pour tous ceux qui passent l'Halloween, en plus du port du masque. En 2018, Ottawa a accordé au gouvernement des TNO un financement de 60 millions pour le logement. Deux ans plus tard, pas un sou n'a été dépensé. Interrogée par les députés, la ministre responsable de la société d'habitation, Polichina, s'est engagée à agir rapidement. « Mon objectif, a-t-elle assuré, c'est que ces fonds soient dépensés d'ici la fin du mandat de ce gouvernement. » Alloué il y a maintenant deux ans par le gouvernement fédéral, ce fonds est toujours intact. Aucun projet d'habitation n'a encore pu en bénéficier. Des députés ont exprimé leurs craintes en chambre quant au fait que cet argent, voué notamment à pallier les problèmes criants d'accès au logement dans les collectivités des TNO, n'ait toujours pas été dépensé. La ministre China s'est engagée à offrir des détails concrets de son plan d'action dès le début de l'année 2021. Un engagement qu'elle prend au terme d'une tournée des 33 collectivités des territoires du Nord-Ouest durant laquelle elle a pu rencontrer et consulter des partenaires potentiels.
We'd had toured the territory together, looking at the program that is available and trying to encourage Indigenous partnerships to come forward and looking at the great opportunity that this would be able to meet the needs of the housing programs, of the housing construction throughout the Northwest Territories and involving stakeholders coming to the table.
La ministre responsable de la Société d'habitation des TNO, Polichina, explique que le but de cette tournée était de créer des partenariats avec des organisations autochtones et des actions dans le but de les amener à saisir cette occasion de faire des demandes de financement via le fonds de co-investissement offert par Ottawa. La ministre indique qu'à terme, chacune des 33 collectivités devra fournir un plan des projets qui seront mis de l'avant grâce à ce fonds de co-investissement. Malgré les démarches, il demeure que ce fonds n'a pas été touché depuis 2018 et certains députés ont signifié leur crainte que les TNO ne parviennent pas à dépenser à temps et qu'une partie doive éventuellement être retournée au fédéral. Une éventualité navrante dans un contexte de crise du logement qui est associé, entre autres, à un fort taux d'itinérance et de problèmes sociaux.
Mr. Speaker, in speaking with different people within our community, there's a lot of kind of buzz around the co-investment fund, and people are eager to help us spend these dollars. So what I'm asking for from the minister is, will the minister agree that the Housing Corporation needs to take on a more proactive role in being better advocates for spending this money within our communities?
On entend la députée de Kamloops, Caitlin Cleveland, qui souligne l'empressement dans les collectivités d'avoir accès à ces fonds. La ministre convient-elle qu'il importe d'être davantage proactif quant à la façon dont sera dépensé cet argent dans nos collectivités, a-t-elle questionné. Polichina s'est engagée à passer à la vitesse supérieure.
Right now, I am committed to be working a lot more stronger, a lot more harder, getting the message out. I need NGOs to come forward. I need Indigenous groups to come and work with us. $60 million, it has to be spent.
Je m'engage maintenant à travailler beaucoup plus fort pour passer le message auprès des partenaires, a affirmé la ministre. J'ai besoin que les organisations non gouvernementales des TNO aillent de l'avant. J'ai besoin que les regroupements autochtones viennent travailler avec nous. Ces 60 millions de dollars doivent être dépensés. La ministre a également affirmé qu'elle préconise auprès d'Ottawa que la société d'habitation ait pleinement accès aux montants alloués, le but étant que l'argent soit administré à partir des territoires du Nord-Ouest et non pas à partir d'Ottawa.
And we could let the federal government know this is how houses need to be built in the Northwest Territories. This is how much it's going to be costing us.
Nous souhaitons être en mesure de dire à Ottawa, voici comment nos maisons doivent être construites au TNO, voici combien ça coûte dans chacune des collectivités, a expliqué la ministre Polichina. Les fonds de co-investissement pour l'habitation des TNO ont été alloués par Ottawa en 2018 dans le cadre d'une stratégie nationale d'accès au logement de 41 milliards. Le gouvernement du Canada annonçait également le 27 octobre la mise sur pied de l'initiative pour la création rapide de logements. C'est un fonds d'un milliard de dollars qui est voué à répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens vulnérables, surtout dans le contexte de la COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables. La ministre a indiqué que les employés de la société d'habitation en étaient actuellement à se familiariser avec ce nouveau fonds. La semaine dernière, au Nunavut, le député d'Ivy League, Patrick Netzer, a été officiellement éjecté du Conseil des ministres, deux semaines après avoir publié un commentaire jugé raciste et misogyne sur Facebook. Une large majorité des membres, 14 contre 3, incluant M. Netzer, a voté en faveur de la motion déposée par le premier ministre Joe Savikatak. Mais le député d'Ivy League a maintenu jusqu'au bout que son commentaire publié sur Facebook véhiculait des valeurs inuites et que la motion ayant mené à son éjection du Conseil des ministres est fondée sur de fausses accusations. Le jour du vote qui a amené à son éjection du Conseil exécutif, Patrick Netzer a déposé deux documents à l'Assemblée législative, soit deux articles de journaux comportant, selon lui, des accusations absolument fausses de la part du premier ministre Joe Savikatak. Ce dernier y est cité, affirmant que les commentaires publiés par le député sont fondés sur le racisme et la violence sexiste. Rappelons que plus tôt, en octobre, Patrick Netzer, qui était alors ministre responsable du Collège de l'Arctique et de la Société d'habitation du Nunavut, a publié un message choquant sur Facebook. « Toutes les vies comptent », affirme M. Netzer pour introduire son commentaire. « Je ne fais que penser tout haut ». Il désigne ensuite le mouvement « Black Lives Matter » et poursuit. « Je me demande combien de femmes noires ont eu recours à un avortement au cours de l'année dernière et à quelle étape de leur grossesse est-ce que ce ne sont pas aussi des vies ?» C'est ce qu'a écrit le ministre Patrick Netzer sur Facebook. Le premier ministre Joe Savikatak a révoqué les responsabilités ministérielles du député le jour suivant. Pour sa défense, M. Netzer a avancé que ses propos sur l'avortement étaient fondés sur ses valeurs inuites. Il a cité par ailleurs à plusieurs reprises son droit à la liberté d'expression. « Je me suis prononcé au nom des bébés non nés à travers le Canada qui ont été avortés », a-t-il notamment déclaré. « En tant qu'Inuit, nous attachons une grande importance à la vie et ce, pour ceux qui vivent encore dans l'utérus jusqu'à leur naissance et jusqu'à ce qu'ils deviennent des aînés ». Le député s'est toutefois expliqué sur son recours à l'expression « All Lives Matter » sur Facebook. Traduit en français par « Toutes les vies comptent », le slogan « All Lives Matter » est généralement utilisé pour discréditer le mouvement « Black Lives Matter » en minimisant l'ampleur des injustices vécues par les personnes noires. Après avoir parlé à des amis proches qui font partie de la communauté noire, a déclaré M. Netzer, « J'ai pu comprendre que l'expression « Toutes les vies comptent » a été employée pour discréditer la cause portée par la communauté noire. » « Je n'ai certainement pas employé les termes « toutes les vies comptent » dans ce contexte », poursuit-il, « et je n'aurais pas choisi ces mots si j'avais su qu'ils pouvaient être détournés dans une tentative de nier les luttes de mes frères et sœurs noirs. » À Yellowknife, l'option d'installer un centre de jour temporaire dans un immeuble de la 44e rue en face de l'école St. Patrick's risque d'être mise de côté par la municipalité. En regard de nombreuses voix s'opposant à un tel covoisinage avec les élèves de l'école, l'administration municipale s'attend à ce qu'une telle décision, si elle était retenue par le conseil, soit portée en appel par des résidents. Un processus qui pourrait probablement s'étendre sur 3 mois. Dans la mesure où ce centre de jour temporaire doit protéger les personnes itinérantes du temps froid, un tel délai serait inacceptable. Avec les mesures d'éloignement physique, le centre de jour actuel de Yellowknife ne peut accueillir qu'un nombre limité d'usagers. Jusqu'à maintenant, c'est le GTNO via le ministère de la Santé et des Services sociaux qui devait être responsable de trouver un lieu et d'en financer l'installation. Mais Yellowknife s'est vu allouer le 23 octobre un montant additionnel de près d'1,5 million de dollars. C'est un fonds du gouvernement fédéral qui est dédié à appuyer la population itinérante face à COVID-19. On propose d'utiliser ce fonds, de puiser dans ce fonds afin de construire une structure temporaire qui servira à accueillir les personnes itinérantes de la capitale et ce jusqu'au 31 mars. Le lieu est encore à déterminer. Plusieurs parties prenantes, dont une majorité de conseillers municipaux, tiennent à ce que cet abri soit érigé au centre-ville pour que les bénéficiaires y aient accès facilement. Cette recommandation du Conseil consultatif communautaire sur l'itinérance de Yellowknife a été approuvée ce jeudi 29 octobre. C'est toutefois le 9 novembre que le Conseil municipal passera au vote parmi toutes les options qui lui seront présentées. L'immeuble proposé sur la 44e rue est adjacent donc à l'école Saint-Patrick. Plusieurs résidents auraient exprimé leur désaccord à un tel covoisinage entre les élèves et une proportion d'usagers du centre de jour qui seront potentiellement en état d'ébriété ou intoxiqués. En août dernier, l'administration Trump avait fait part de sa décision d'autoriser l'octroi de permis d'exploration pétrolière dans le refuge arctique. La Banque royale du Canada et la Banque de Montréal ont annoncé qu'elles ne fourniraient pas de financement direct pour les projets impliquant de l'exploration pétrolière dans cette région. Ma collègue Nelly Guidessy de Zone Arctique est avec nous pour nous en parler. Bonjour Nelly.
Oui, bonjour Thomas.
Donc Nelly, une prise de position du moins en apparence importante là, de la part des banques face à ce projet qui en avait fait sursauter plusieurs l'été dernier. Comment est-ce qu'on explique ce refus du côté des banques?
Ben, en fait, la Banque royale du Canada a développé un document de travail qui retrace en gros les lignes directrices pour les activités dans les secteurs dits sensibles, comme la réserve faunique nationale de l'Arctique ou les sites désignés comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Dans cette stratégie, il est notamment fait mention d'une reconnaissance de la vulnérabilité écologique et sociale de la région arctique dans son ensemble, ce qui a motivé cette prise de décision. Si le document ne fait pas expressément mention des peuples autochtones qui vivent dans l'Arctique, le grand chef du conseil tribal Gwich'in des territoires du Nord-Ouest, Ken Smith, voit dans cette prise de position quelque chose de positif. En effet, il estime qu'un pas en avant a été fait et il entrevoit une reconnaissance des peuples autochtones, pas seulement au Canada, mais à un niveau international.
Donc vraiment une orientation officielle de la part des banques. On se demande qu'est-ce qui a motivé, ou plutôt qui est-ce qui a motivé les banques à se positionner ainsi?
Bien, en fait, en décembre 2019, une délégation de représentants de la Société pour la nature et les parcs du Canada, représentant Yukonais, accompagnée de trois représentants des nations Gwich'in du Canada, se sont rendus à Toronto afin de rencontrer en personne les directeurs des cinq plus grandes banques canadiennes. Le motif de cette visite était de leur demander de renoncer officiellement à tout financement de projets dans le refuge arctique. Donc à ce jour, la TD, la CIBC et Scotiabank n'ont toujours pas pris de position sur la question. Malcolm Boothroy, qui est le coordonnateur de campagne au bureau Yukonais de la Société pour la nature et les parcs du Canada, a fait part dans un message que le fait que les deux premières banques s'y opposent est déjà un message fort. Il indique également que lui ainsi que toutes les autres organisations de protection de l'environnement canadienne continueront de faire pression sur les trois autres banques jusqu'à ce qu'ils prennent officiellement position dans cette affaire.
Nelly, on se doute de la grogne que ça doit provoquer à l'administration Trump, mais au pays, est-ce que cette prise de position fait l'unanimité?
Eh bien, non, ça peut paraître un peu surprenant, mais cette prise de position ne fait pas l'unanimité. En effet, le professeur Robert Hubert, qui est professeur au département des sciences politiques de l'Université de Calgary, a exprimé des réserves. Selon lui, ce type de décision n'a pas beaucoup de portée et sert seulement les propres intérêts des institutions financières qui se donnent bonne conscience. Il pense que des décisions similaires devraient être prises ailleurs au Canada, au sud du Canada notamment. Et selon lui, si les banques refusaient de financer les forages pétroliers au large de l'île de Terre-Neuve, par exemple, dans ce cas, cette prise de position aurait plus de crédit.
Donc, on demande en bref d'élargir l'application de ces bons principes. Nelly Guidessy de Zone Arctique, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à toi, Thomas.
C'est à partir de ce dimanche 1er novembre et ce jusqu'au 7 novembre que se tient la Semaine nationale de l'immigration francophone. Ça se passe partout au pays. Au territoire du Nord-Ouest, c'est organisé en collaboration avec le Réseau en immigration francophone des TNO, le RIF-TNO. Ma collègue Cécile-Antoine Maisonnade est avec nous pour nous en parler. Bonjour Cécile.
Bonjour Thomas.
Et une bonne nouvelle, cette année, l'événement, malgré COVID, ne sera pas uniquement virtuel. On va pouvoir sortir de chez nous, Cécile.
Oui, tout à fait. Donc, il va y avoir en tout 9 ateliers à peu près, plus 3 flottants. Donc, il va y avoir, par exemple, au niveau virtuel, il va y avoir une session de sport d'afrocardio. qui sera donné le 3 novembre, ou encore un panel virtuel pan-canadien sur la discrimination raciale, qui sera donné le samedi 7 novembre, donc en virtuel. Mais il y aura aussi effectivement des ateliers en personne, comme un atelier de cuisine marocaine et un souper exotique marocain, qui sera le jeudi 5 novembre, à Hay River. Et il y aura aussi une soupe communautaire le vendredi 6 novembre au Diamond Plaza Building, à l'extérieur.
Donc, l'occasion de sortir de chez soi quand même, c'est important ces temps-ci. Cette année, un thème politisé, Cécile, ma couleur francophone.
Oui, effectivement. Donc, cette année, la thématique retenue par la Fédération est un peu plus politisée que les autres années. Ma couleur francophone, ce choix, il est directement lié à l'actualité de ces derniers mois. Et on écoute tout de suite Annick Théberge, qui est la coordinatrice du RIFTNO, le réseau en immigration francophone, donc l'organisme qui a organisé localement la semaine. Elle nous explique un peu comment s'est développée l'idée.
Ça a été inspiré par les événements qui sont arrivés avec George Floyd aux États-Unis, puis les divers événements de l'actualité de discrimination raciale dans la dernière année, là, tant au niveau des groupes racisés comme les personnes noires qu'au niveau des autochtones. Puis le but, c'est vraiment d'avoir une occasion d'ouvrir le dialogue sur la réalité du racisme systémique que beaucoup d'immigrants puis que d'autres groupes ciblés comme les Autochtones vivent au quotidien, que ce soit même au Canada, même si c'est un peu moins poussé qu'aux États-Unis.
Donc Annick Théberge, coordonnatrice locale du RIFTNO, c'est donc la 8e année de cette Semaine nationale de l'immigration francophone. Cécile, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? À quoi ça sert une semaine de l'immigration francophone?
Déjà, il est important de noter que ces quelques jours ne sont en aucun cas un lieu pour avoir des renseignements sur l'immigration en tant que telle. Mais c'est plus de manière globale de... Le but, il est de rassembler et de faire converser les francophones autour de différentes thématiques. Donc cette année, ma couleur francophone. Et de connaître d'autres cultures qui ont la même langue, mais pas forcément des mêmes pays, mais qui ont la même langue.
Parfait. Donc, on vous invite évidemment à visiter le site web de RIFTNO pour la programmation. C'est également inclus et détaillé en dernière page du journal L'Aquilon de cette semaine. Cécile Antoine Maisonnade, merci beaucoup.
Merci Thomas.
À l'heure actuelle, les examens de français imposés aux personnes immigrantes au TNO doivent être passés dans la province du Sud à leurs frais. Mais tout ça pourrait changer dès mars 2021. Ces tests pourraient être offerts au Collège nordique. J'en parle avec Denis Laure qui est avec nous. Bonjour Denis.
Bonjour Thomas.
Alors Denis, les structures se mettent lentement en place au territoire du Nord-Ouest là, pour permettre aux immigrants d'y passer des tests médicaux et linguistiques en français pour recevoir leur résidence permanente.
Encore aujourd'hui, les immigrants doivent se déplacer dans le Sud à leurs frais pour passer leurs tests dans des institutions accréditées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. J'ai parlé à Aline Kessab, un informaticien de citoyenneté française, à qui ça a coûté environ 1 200 $ pour un billet d'avion, l'hébergement et les examens qui, eux, coûtent environ 300 $. Pendant sa quarantaine, à son retour, il a pu faire du télétravail, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça.
Donc, c'est un montant très élevé pour les individus. Il semble que ça pourrait l'être aussi pour la société en matière d'absentéisme, aussi de rétention de la main-d'œuvre et de transferts fédéraux, puisque plusieurs personnes choisissent de pas revenir, Denis. Il semble que les choses pourraient changer prochainement.
Oui, le Collège nordique francophone a reçu une subvention du gouvernement des territoires du Nord-Ouest pour acheter du matériel informatique et il serait sur le point de signer une entente avec la compagnie Parangon pour faire passer leurs tests aux immigrants, mais c'est des tests en anglais, ici à Yellowknife. On écoute la directrice générale.
Avec l'entente du gouvernement, ça nous permet d'acheter l'équipement, ça nous permet de, tu sais, parce que c'est quand même un investissement, puis l'affaire, c'est qu'on a besoin d'une salle où on garde des ordinateurs en permanence. C'est avec ça que le gouvernement nous aide. Une fois qu'on l'a, bien là, on va pouvoir aller offrir le test de français aussi. Mais pour l'instant, ce qui presse ici, c'est le test d'anglais.
Il faut dire que les tests en anglais se sont déjà donnés au Collège Aurora, mais de manière ponctuelle. Dans ce cas-ci, ce serait de manière permanente et les tests pourraient commencer en décembre. Mais une fois que l'équipement a été acquis pour les tests en anglais, me dit Mme Clermont, ça va être beaucoup plus facile de donner les examens en français. L'homologue francophone de la compagnie Parangon serait déjà serait beaucoup moins exigeant que Parangon. Alors, Mme Clermont pense que si la demande est là, les examens pourraient commencer en français dès le mois de mars.
Et Denis, même principe pour les examens de santé qui doivent se faire actuellement dans le Sud, mais qui pourront bientôt se faire à Yellowknife?
Oui, pour les examens de santé, c'était autant du côté anglais que français que ça se faisait à l'extérieur. Mais j'ai parlé cette semaine avec le directeur général du Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest, François Hassan, qui m'a dit que le Yellowknife Immigration Partnership a eu une entente avec l'Agence de santé et de services sociaux des territoires du Nord-Ouest pour qu'il y ait à Yellowknife un médecin désigné, approuvé par IRCC. Ça serait ça, donc les examens pourraient se donner en français et en anglais, mais on ne sait pas encore quand est-ce que ça va être opérationnel.
Donc là, on parle des territoires du Nord-Ouest. Denis, vous êtes également informé pour ce qui est du Nunavut et du Yukon. Les situations ne sont pas les mêmes. On invite les auditeurs à lire l'article complet dans l'édition de cette semaine du journal L'Aquilon. Denis, merci beaucoup.
Merci, Thomas. Au revoir, tout le monde.
Et voilà, c'était l'actualité de la semaine. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous retrouve la semaine prochaine à Territoire d'Info. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.